France Musique.
Brut d'accordéon, le podcast France Musique.
J'ai pleuré pendant près de 3 ans pour ne pas apprendre l'accordéon.
Il y en a même qui m'ont carrément engueulé en me disant « Tu nous as laissé tomber, t'es plus des notes, tu es devenu un snob maintenant que tu veux faire que des concerts. »
Le compliment sublime, c'est de dire « Oh, on dirait pas de l'accordéon. » Moi, je le prends très mal quand on me dit ça.
Première série, l'accordéon mis en boîte, une passion française. Chapitre 3, la boîte à chagrin. L'accordéon snobé, l'accordéon méprisé, mais l'accordéon libéré. C'est l'accordéon de Freddy Balta, accompagné par l'orchestre de Michel Magne, qui ouvre ce troisième chapitre de notre série. Après la boîte de Pandore et la boîte à frissons, il est temps d'ouvrir notre boîte à chagrin. Certains auront peut-être reconnu ici quelques notes de Frédéric Chopin. D'autres auront entendu une célèbre valse-musette, Brise napolitaine. Eh bien, je vais vous mettre d'accord, vous avez tous raison. Et c'est là le génie de ce cher Freddy Balta qui, en 1962, enregistre un album merveilleux, Paris Musette. Il mêle, sur chaque piste, thème classique et thème musette. Les arrangements sont raffinés, son jeu est comme toujours impeccable. Cet album pensé par Balta, c'est une sorte de condensé du vœu, de la supplication même que tant d'accordéonistes français ont adressé des années durant au milieu académique de la musique classique. Oui, nous jouons du musette, de la chanson, de la musique populaire, mais oui, nous pouvons aussi jouer de la musique classique, sérieuse, savante. C'est peu dire qu'il aura fallu du temps pour qu'il soit entendu. Voilà donc l'objet de notre troisième chapitre, le milieu de la musique classique française qui aura si longtemps snobé et méprisé celui qu'on surnommait le piano du pauvre. Vous allez mesurer à quel point plusieurs générations d'accordéonistes français ont dû batailler pour se faire écouter, pour être considérés. Parce que la musique classique à l'accordéon, contrairement à ce que j'entends trop souvent, ça n'a rien de nouveau. Écoutez donc l'accordéon de Christian Di Macchio, enregistré en récital en 1958 à Paris. Thank you. La musique de Jean-Sébastien Bach avec ce prélude en do mineur extrait du premier livre du clavier bien tempéré, interprété avec brio par Christian Di Macchio, un accordéoniste français virtuose, né en 1941 et malheureusement disparu beaucoup trop tôt, en 93, à l'âge de 52 ans. Voilà donc une preuve formelle qu'on joue Bach et bien d'autres compositeurs classiques à l'accordéon en France depuis près d'un siècle. Alors certains se disent peut-être qu'un accordéoniste qui joue du classique, que celui qui fait de la chanson ou du musette ne fait rien d'autre. Eh bien pas du tout, ou en tout cas c'est un phénomène assez nouveau dans le milieu de l'accordéon. Prenons l'exemple de Freddy Balta que nous entendions tout à l'heure. Il était à la fois organiste et accordéoniste. Il a toujours joué de la musique classique à l'accordéon, mais il a aussi été un musicien de bal et surtout un accompagnateur de chanteurs très actif. Dans le deuxième épisode de notre série, rappelez-vous, nous l'entendions derrière la voix d'Yves Montand. Tiens, mais il me semble que nous avons quitté la musique de Bach pour celle de Domenico Scarlatti. Soit. Saurez-vous deviner quel accordéoniste se cache derrière cet enregistrement de 1988 ? Tendez bien l'oreille. Je vous avais promis dans l'épisode précédent que nous entendrions Yvette Horner dans un répertoire où elle n'est pas forcément attendue. Eh bien oui, il s'agit bien d'Yvette ici, dans cette sonate pour clavecin en do majeur de Scarlatti, une pièce extraite de son album Le Jardin secret d'Yvette Horner, paru en 88 sous le label Erato. Même Yvette a joué du classique, c'est dire. Alors les connaisseurs me répondront qu'il n'y a rien de surprenant, puisqu'avant de devenir accordéoniste, Yvette Horner a commencé la musique par le piano. Sa première passion, c'est la musique classique. Le classique ou le baroque, puisque vous aurez remarqué que jusque-là, c'est surtout la musique de compositeurs baroques que nous avons entendue transcrite à l'accordéon. Eh bien, restons dans le baroque, mais délaissons un peu la transcription pour l'arrangement. Éloignons-nous quelques instants du classique pour le jazz. Rencontre au sommet entre Jos Baselli et Antonio Vivaldi. Nous écoutons donc Jos Baselli et son pop quartet revisitant l'hiver des quatre saisons de Vivaldi. Jos va évidemment énormément œuvrer pour ouvrir les portes de multiples répertoires à notre instrument. Dans notre épisode baptisé La boîte à frissons, nous évoquions l'émission télévisée Le Monde de l'accordéon que Jos a fait vivre durant 10 ans sur l'antenne de TF1. C'était une véritable vitrine de l'accordéon dans tous les styles, le classique n'échappant pas à la règle. « Jos Baselli va également fonder l'Académie de l'accordéon avec ses amis Marcel Azola, André Astier et Joé Rossi. Tous les quatre, ensemble, avec cette institution, ils vont à la fois former bon nombre des grands accordéonistes des générations futures, mais aussi militer pour renouveler le répertoire de notre instrument. Au départ, les œuvres originales pour accordéon de style classique arrivent en nombre de Moscou. Car il faut savoir que l'histoire de l'accordéon est bien différente en Russie et en France. Dans les deux pays, l'instrument est très lié à la musique populaire, mais côté russe, cela ne l'a pas empêché de se faire une place de choix même, dans les institutions classiques. De nombreux compositeurs russes vont écrire de la musique savante pour cet instrument, à l'image de John Gart, auteur de ce célèbre scherzo pour accordéon, enregistré dans les années 80 par un accordéoniste merveilleux, au toucher de velours, Joé Rossi. Non seulement l'école d'accordéon russe va engendrer du répertoire classique et savant, mais il faut aussi noter que l'accordéon entrera très tôt dans les structures d'enseignement de la musique en Russie. Dès 1928, une classe d'accordéon est créée à l'Académie Niessine de Moscou, l'équivalent du CNSM de Paris. Si les Russes devancent les Français en ce qui concerne la composition pour accordéon classique, les choses vont commencer à bouger petit à petit dans l'Hexagone sous l'impulsion d'accordéonistes eux-mêmes compositeurs. Alain Abbott, Patrick Busseuil ou Franck Angélis sont de ceux-ci. Ils vont tous composer abondamment pour leur instrument, l'accordéon. Ils s'inscrivent ainsi dans la lignée d'André Astier, un des membres fondateurs de l'Académie de l'accordéon que nous évoquions tout à l'heure. Superbe musicien, mais surtout premier compositeur français à réellement imaginer un répertoire pour l'accordéon de concert. Nous entendons André Astier lui-même dans cet enregistrement des années 60 d'une de ses compositions pour accordéon et orchestre symphonique, Prélude et Mazurka. André Astier est né à Montluçon il y a tout juste un siècle, en janvier 1923. Son appétence pour la musique classique s'explique sans doute par le fait qu'il a débuté la musique par l'étude du hautbois au conservatoire de sa ville natale. Alors évidemment, s'orientant vers l'accordéon, comme tous les camarades de sa génération, Astier va jouer du musette et de la musique populaire. Mais assez tôt dans sa carrière, il décide de consacrer beaucoup de son temps et de son énergie à la composition. Il signe ainsi quelques œuvres devenues incontournables dans le répertoire de notre instrument. C'est le cas de Prélude et Mazurka, donc, mais aussi de sa fantaisie en mi mineur, de Divertimento ou de sa grande valse de concert. André Astier ne va pas seulement s'imposer comme un compositeur fondamental dans le parcours de l'accordéon. Il va devenir le plus grand militant et défenseur de l'accordéon de concert français. Il va s'impliquer sans relâche au sein de l'UNAF, l'Union Nationale des Accordéonistes de France, un réseau de concours d'accordéon d'une très grande tenue. Il en devient le directeur technique et contribue à ce poste à faire évoluer considérablement le répertoire de l'instrument. André Astier milite aussi des années durant pour la création de classes d'accordéon dans les conservatoires français et en premier lieu au CNSM de Paris. Pas à pas, il réussit son entreprise. Des classes ouvrent dans certains conservatoires régionaux ou départementaux. Malheureusement, André Astier va disparaître 8 ans avant que le CNSM de Paris consente à faire une place à l'accordéon en son sein. L'institution attendra 2002 pour ouvrir cette classe tant espérée. Une chose est certaine, André Astier aurait été fou de joie en apprenant la nomination comme professeur d'accordéon au CNSM de Paris de Max Bonnet. Nous entendons la musique d'Olivier Messiaen sous les doigts de Max Bonnet, justement. Un extrait de La Nativité du Seigneur, enregistré en 1980. Max Bonnet est donc nommé professeur d'accordéon en 2002 au CNSM de Paris. Cette institution fait enfin une place à l'accordéon. Max va enseigner durant 20 ans au sein du conservatoire avant de prendre sa retraite. C'est depuis quelques mois Vincent Lhermé qui est en charge de la classe, assisté par Anthony Millet. L'existence de cette classe à Paris, même s'il n'existe toujours pas de classe au CNSM de Lyon, a hautement contribué à faire changer le regard porté sur l'accordéon. André Astier a eu ô combien raison de se battre ardemment pour sa création. Il n'était évidemment pas tout seul pour mener ce combat. À ses côtés, on trouvait entre autres son ami de toujours, le très grand Marcel Azzola. Marcel Azzola. Quelle place occuperait aujourd'hui l'accordéon en France si nous n'avions pas eu Marcel Azzola ? C'était un musicien immense, mais aussi un visionnaire, un combatif, un bourreau de travail, un être rempli d'humanité et d'humilité. vous aurez tous reconnu la musique de Gershwin que Marcel Azzola nous fait entendre ici en compagnie de son indéfectible pianiste, Lina Bossati. Avec Lina, ils vont parcourir la terre entière et donner des concerts à l'image de cet instrument caméléon qu'est l'accordéon. Il mêle classique, jazz, chanson et valse-musette. Car dans sa carrière, Marcel Azzola a joué tous les styles, tous les répertoires. Il ne s'est jamais rien interdit, sauf de mal jouer. Son exigence était totale, quel que soit le style de musique qu'il défendait. En revanche, il n'aimait pas qu'on dise du mal de son instrument fétiche.
J'ai tellement entendu de choses, j'allais dire, désagréables concernant cet instrument. Déjà, si on lit, par exemple, un certain Larousse du début du siècle, où on pouvait lire « accordéon », instrument totalement impropre à faire de la musique et qui ne peut s'acoquiner avec aucun autre.
Marcel a visiblement voulu montrer que son accordéon pouvait s'acoquiner avec tout un tas d'instruments, en particulier quand ils sont tenus par les meilleurs musiciens du moment. En voici un exemple avec ce live de concert donné en 1990 à Tokyo. Marcel tient l'accordéon, évidemment, Marc Fossé la guitare, Jean-Philippe Viré la contrebasse, et au violon, c'est un certain Stéphane Grappelli qui officie. La classe immense de Marcel Azzola va changer beaucoup de choses. Il initie un mouvement, il va partager la scène avec les meilleurs, comme ce soir-là à Tokyo. Avec Azzola, la libération, la reconnaissance, la considération de l'accordéon est en marche. L'aboutissement approche et c'est d'abord dans l'univers du jazz qu'il va se produire. Nous sommes en 1992 lorsqu'un disque mythique paraît. Il est imaginé par un accordéoniste hors norme. Il ne le sait pas encore, mais c'est une révolution qui l'engage. Il va tout changer. Il va devenir le premier véritable soliste international accordéoniste. Il s'apprête à embrasser une carrière qui va le conduire à donner des concerts aux quatre coins du monde pendant des décennies, avec les meilleurs solistes, les meilleurs orchestres. Son parrain dans le métier, Jos Baselli, l'avait-il pressenti ? Son ami et mentor Astor Piazzolla a-t-il eu cette intuition lorsqu'il lui conseille de créer le New Musette ? Ce sera en tout cas chose faite et ce sera le titre de cet album paru en 92 et signé Richard Galliano. Catherine à la guitare, Pierre Michelot à la contrebasse et Aldo Romano à la batterie entourent Richard Galliano dans cette pièce de sa composition, Les Oiseaux, un titre extrait de ce fameux album New Musette. Richard entame dès le début des années 90 une incroyable carrière de soliste dans l'univers du jazz. Il s'entoure des meilleurs et donne le meilleur de lui-même. Très vite, il devient la référence de notre instrument partout à travers le globe. L'histoire aurait pu durer ainsi, se cantonner à l'univers du jazz, si j'ose dire. Mais ce serait mal connaître Richard Galliano, qui partage cet amour de toutes les musiques avec son aîné Marcel Azzola. Alors, fort de son succès planétaire en jazz, il décide en 2010 de tenter la révolution Galliano, côté classique également. Il s'entoure là aussi de musiciens merveilleux, il convainc le mythique label Deutsche Grammophon de le suivre et il convoque la musique de Jean-Sébastien Bach. Nous écoutons le final du concerto pour clavecin numéro 5 en fa mineur de Jean-Sébastien Bach, transcrit pour accordéon et quintette à cordes, et extrait de ce fameux disque Bach sorti en 2010. Richard Galliano est accompagné de Jean-Marc Philips et Sébastien Surel au violon, Jean-Marc Apap à l'alto, Raphaël Pidou au violoncelle et Stéphane Logereau à la contrebasse. Cet album, ce projet autour de la musique de Bach, porté par Richard Galliano et ce quintet à cordes merveilleux, va parachever le travail accompli par ceux qui l'ont précédé. L'accordéon se voit enfin libéré des clichés et des préjugés que le milieu de la musique classique française lui a longtemps accolés. Si notre instrument est aujourd'hui présent dans la programmation des plus beaux festivals de musique classique, s'il est un compagnon de scène privilégié dans l'univers de la musique de chambre, s'il s'impose de plus en plus souvent comme instrument soliste devant l'orchestre, nous le devons aux musiciens magnifiques évoqués dans cet épisode. De Freddy Balta à Marcel Azzola, en passant par Yvette Horner, Joé Rossi, Jos Baselli, André Astier, Christian Di Macchio, Max Bonnet, Richard Galliano et tout un tas d'accordéonistes que j'ai sans doute oubliés, tous se sont engagés passionnément pour défendre l'accordéon et pour refermer cette boîte à chagrin. Il est donc temps que nous fassions de même. Cet épisode a été concocté avec l'aide précieuse de Patrick Lérissé à la réalisation, Alison Ascrisi et Franz Kinan Lajaili à la technique et Marie-Christine Ferdinand, notre attachée de production. Rendez-vous sans plus attendre sur le site ou l'application Radio France pour découvrir le quatrième et dernier épisode de cette série, La boîte à idées ou l'accordéon moteur d'un renouveau, vecteur de création.
À réécouter sur francemusique.fr.